Vous avez bien tous du coup le partage de l'écran, c'est bon sur vos écrans? Ok. Alors, bonjour à tous déjà. Voilà, on est par écran interposé. Alors, c'est pas un exercice forcément toujours facile, mais comme tu l'as dit dans ta prière, je crois que quand le Seigneur prépare quelque chose, des fois il nous surprend. Et j'ai été surpris, moi, lors de la présentation de ce sujet. Car vous voyez un titre qui n'est pas forcément celui, qui n'est pas celui qui avait été prévu. Lorsque j'ai commencé à vouloir étudier le sujet, je voulais. Ah, c'est noir là?
L'écran est noir.
Oui, c'est ce qu'on me dit. Alors,
L'écran
attendez.
noir.
Pourquoi? Hop. Pourtant, j'ai le partage de la vidéo. Est-ce que je suis situé comme ça? Tu
Tout à l'heure,
l'avais?
on voyait quand tu saisissais ton mot de passe Google, mais c'est après qu'on peut partager le fichier.
Ok, alors comment ça se fait quand je fais chier? Pourquoi ça fait ça? D'habitude, ça marche plutôt bien. On va peut-être faire différemment, je suis désolé, je me connecte avec mon portable et partager avec. Hop. Tu peux me redonner le numéro de la réunion, s'il te plaît. Le numéro de la réunion, tu peux me le redonner. Oui.
441 670 0080.
Merci.
Et le mot de passe 3105 1960.
C'est bon. Je l'ai, hop. Comment?
Il va maintenant tuer deux fois.
Oui,
Oui,
je
je
sais,
sais,
c'est
c'est normal.
normal.
Bon, parfait.
C'est en
En
fait,
fait,
du coup,
je
je
vais
vais
faire
faire
le
le
partage
partage. Hop,
via
via
mon
mon
écran.
écran.
Alors, on a quelques petites difficultés de technique. Je rappelle que c'est Yvan Vaumann ce matin qui va nous parler de nos héritages. Ah ben voilà.
Mais qu'est-ce que c'est ? Pardon, excusez-moi.
Ouais, c'est bon là. C'est bon, on voit bien va et quitte là avec. Ouais.
Normalement, il y aurait lire. Ok. Pardon, je suis désolé pour ce contretemps. Hop. C'est les joies de la technique. Alors. Normalement, ça devrait commencer à le lire.
Non, c'est pas impossible que, comme vous avez plusieurs flux vidéo sur le... sur la même box ou sur la même fibre au Romagnan, ça plombe un peu les performances. Donc peut-être qu'il faudrait que seulement Yvan reste en vidéo.
Ah oui.
Tu vois, parce que vous êtes 3-4 là à échanger en vidéo en entrante et sortante, donc ça fait du trafic sur la box du Romagnan. Moi, je vais arrêter ma vidéo aussi.
Ah, tu penses que ça bug à cause de ça ?
Pas forcément bugué, mais ça ralentit, ça peut ralentir beaucoup.
Bon, vous voyez tout cela de toute façon ? Est-ce qu'on...
Voilà. Il faut qu'on voit toi et puis qu'on coupe les autres caméras, notamment on a ça, on a comme toi, en fait. En particulier au moment.
Vous avez ça, hein ?
Oui.
Bon. Si tu veux passer un Japon comme ça, c'est bon. Ouais, je fais ça et puis voilà. Bon, vous aurez la transparence de mes notes et des diapos d'après. Ok.
Il y a une connexion qui reste, qui gêne actuellement, là, qui est toujours en train de vouloir se connecter là, pour Yvan.
Voilà. Ok. Alors, bon, on va commencer comme ça. Donc oui, comme je vous le disais, en fait, on est surpris des fois quand on prépare un sujet parce que on a quelque chose en tête parfois et le Seigneur en fait nous emmène par son esprit des fois ailleurs ou en tout cas sur des chemins qui étaient inattendus Et ça a été le cas réellement sur ce sujet. Quand Guillaume m'a demandé en fait de présenter le sujet, j'étais parti sur le sujet de nos héritages en pensant en fait étudier les différents hommes de la foi, ou en tout cas ceux qui ont marqué l'histoire par leur foi particulière. Et puis, en commençant à les étudier, je me suis dit, il y a une chose qu'ils ont tous en commun, c'est qu'à un moment, ils étaient dans une zone qu'on pourrait appeler une zone de confort, ou en tout cas une zone de vie, et Dieu leur a demandé de partir, de quitter, voilà, de, par la foi, de faire ce saut de la foi. Et il l'a fait de plusieurs manières, selon les personnes. Parfois, ça a été par un appel, parfois, ça a été par des circonstances de vie, des contextes. Mais ils ont tous à peu près cette chose en commun. Et celui qui m'a marqué, et dont j'ai lu le livre qui parle de lui, c'est donc l'épopée vaudoise, c'est Pierre Valdo. Je ne sais pas si vous avez le... Ça passe bien à l'écran, oui. Okay. Pierre Valdo, ça m'a marqué son histoire. Je vous avouerai que je la connaissais très peu, mais j'ai souligné dans le livre un passage où on a quelqu'un qui a une circonstance de vie, qui est un riche marchand lyonnais, qui fait la fête, qui n'a pas tellement conscience en fait de Dieu, de voilà, de, et puis qui va vivre quelque chose qui va le bouleverser. C'est-à-dire que pendant qu'il fait la fête, il y a un des convives qui s'écroule et qui meurt devant lui. Et cette mort va être pour lui en fait une secousse dans sa vie que Dieu va permettre pour le réveiller. Il va en fait avoir une espèce de terreur de Dieu qui va s'installer, et il va se demander qu'est-ce qui va se passer pour moi lorsque je vais me retrouver en fait devant le juge suprême, comment ça va se passer. Et puis cette terreur de Dieu, en tout cas cette crainte de ce qu'il va y avoir derrière la mort, va faire qu'il va être en recherche du message de l'Évangile. Et ce message de l'Évangile, il va le trouver, il va être percuté par la parole qui est adressée donc au jeune homme riche et qui dit « Va, vends tout ce que tu as et donne. » Et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'en fait, il va mettre en œuvre cette parole-là dans sa vie, c'est-à-dire qu'il va croire que c'est ce qu'il faut qu'il fasse, et il va vendre tout ce qu'il a, il va mettre sa famille à l'abri du besoin, vendre absolument tout, et à un moment, en fait, il va donner sa dernière pièce, et il va dire, ça y est, je suis allé au bout. Alors, il n'en tire aucune gloire, parce que, voilà, il sent que c'est un appel personnel. Mais je trouve qu'on voit bien dans ce sujet-là, du coup, que je voudrais développer, ce va et quitte, c'est-à-dire, voilà, tu es à un endroit, tu as reçu quelque chose, il va falloir sortir de là où tu es pour aller ailleurs. Et dans cette confiance en Dieu, en fait, sortir de cette zone de confort. Ce que j'ai souligné aussi en commençant à étudier aussi les hommes de foi, c'est que je sais que vous avez déjà parlé d'Abraham, donc l'objectif, ce n'est pas de me focaliser sur Abraham, mais c'est qu'en ouvrant ma Bible, je me suis retrouvé devant ces deux pages-là, qui étaient en fait en vis-à-vis. Et d'un côté, on a l'histoire de la tour de Babel, et de l'autre côté, on a l'histoire de l'appel d'Abraham. Et je trouve qu'il y a un contraste quand même assez saisissant entre les deux histoires. C'est-à-dire que d'un côté, on a en fait la construction d'un écosystème sans Dieu. C'est une espèce de mini-mondialisation, on pourrait dire. Et de l'autre côté, on a une personne à qui Dieu va demander en fait de sortir de cette bulle de confort, ou en tout cas de quitter. Et en fait, le contraste est assez saisissant parce que d'un côté, en fait, la tour de Babel, pour moi, c'est le symbole même d'une organisation purement humaine. C'est-à-dire que parfois, l'homme a tendance en fait à construire quelque chose sans Dieu, à construire une bulle, à construire une sphère dans laquelle il est bien, dans laquelle il est au chaud, dans laquelle il se sent en sécurité, il se sent protégé. Et plus il construit ces bulles-là, plus il se passe de Dieu, plus en fait il a cette notion que en fait il peut remplacer Dieu par ce qu'il fait. Alors je vous propose dans un premier temps d'étudier un petit peu plus en détail la tour de Babel et puis de regarder d'un peu plus près ce contraste. Alors on peut lire déjà le texte, alors j'imagine qu'on le connaît tous assez bien, mais c'est toujours intéressant de lire la parole, mais de voir des choses qu'on n'aurait pas forcément vues. Et donc, la parole nous dit dans Genèse 11, « Et toute la terre avait une seule langue et les mêmes paroles. Et il arriva que lorsqu'ils partirent de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar, et ils y habitèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et ils avaient la brique pour pierre et ils avaient le bitume pour mortier. Et ils dirent, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne jusqu'aux cieux et faisons-nous un nom, de peur que nous soyons dispersés sur la surface de toute la terre. » Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, c'est un peuple. » Et ils n'ont, eux tous, qu'un seul langage. Et ils ont commencé à faire ceci, et maintenant ils ne seront empêchés en rien de ce qu'ils pensent faire. Allons, descendons, et confondons là leur langage, afin qu'ils n'entendent pas le langage l'un de l'autre. Et l'Éternel les dispersa de là, sur la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela son nom Babel. Car là, l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et de là l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. En fait, j'ai repris le texte et souligné en fait les différents points que ce texte souligne. Et je les ai mis dans l'ordre, donc vous avez de 1 à 10. Et j'ai trouvé ça assez intéressant de constater que c'est exactement la manière dont l'homme fonctionne dans un projet, dans sa manière de construire, dans sa manière de construire le monde. Et comme je le disais, en fait, on a vraiment l'image et le symbole en fait, du mondialisation, c'est-à-dire que pour moi, cette tour de Babel, c'est l'image, le symbole, en fait, d'un écosystème sans Dieu. C'est-à-dire que où l'homme a une place prépondérante et fait tout pour assouvir ses désirs. Dans un premier temps, une seule langue, les mêmes paroles. En fait, on pourrait se dire, bah, en fait, c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que c'est une apparence d'unité. Une seule langue, les mêmes paroles. On pourrait se dire que ça commence bien. Et que ça ressemble à une unité. Seulement, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas au milieu de cette unité. Cette unité, en fait, c'est le fait de se regrouper, de faire un clan. En fait, c'est une vision très clanique que l'homme a, c'est-à-dire qu'il faut se rassembler avec ceux qui nous ressemblent, il faut se rassembler avec ceux qui parlent la même langue que nous, et on le voit dans bien des aspects, c'est-à-dire que je voyais là tout à l'heure, en venant au Bals, des Harley Davidson qui étaient ensemble. On a tous une Harley, alors on est ensemble. On a tous une Porsche, alors on sort ensemble, on fait des virées ensemble. On a tous une manière de parler, une vie similaire, alors on est ensemble. Et en fait, de manière assez naturelle, en fait, l'unité de l'homme est en fait dans la ressemblance qu'on peut avoir les uns envers les autres. Et c'est pas ce que nous demande Dieu, c'est-à-dire que en fait nous, notre unité en tant que chrétien, ce n'est pas ni la voiture, ni la moto, ni la maison, ni la manière dont on pourrait parler même. Notre unité, elle est en Christ. Et là, on voit en fait dans cette tour de Babel que ce qui les unit, c'est leur ressemblance. La deuxième chose, c'est ils partent et ils trouvent. Et en fait, je trouve que ça nous parle d'une quête, c'est-à-dire que c'est l'aboutissement d'une quête personnelle. c'est l'aboutissement d'une quête aussi ensemble. C'est-à-dire que dans cette unité, eh ben, on va avoir un projet, on va trouver un projet, on va aller au bout de cette quête, et puis on va trouver quelque chose. Ensuite, le troisième point, c'est « ils habitent ». Ils habitent, moi je trouve que ça nous parle de la sédentarisation. C'est le côté « je me fixe à un endroit, je ne veux plus bouger, je reste là par souci de confort, de sécurité, parce que je suis bien là, parce que je décide de rester là. » La troisième chose, la quatrième pardon, que je souligne dans le texte, c'est la brique pour pierre et le bitume pour mortier. Et moi, j'y vois l'ingénierie humaine, c'est-à-dire que c'est le côté de après qu'on ait constaté une unité, une ressemblance, qu'on est allé quelque part ensemble, qu'on se soit fixé, eh ben, on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on construit. Comment est-ce qu'on le construit? Qu'est-ce qu'on met en œuvre? On voit en fait le cerveau humain qui commence à se mettre en place et qui commence à échafauder des plans. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire sur la tour de Babel, c'est-à-dire qu'ils remplacent en fait des choses, ils utilisent leur cerveau pour faire aboutir en fait un projet. Et donc du coup en fait, ça nous parle aussi aujourd'hui, je trouve, de la mondialisation. C'est-à-dire qu'on peut s'émerveiller. Moi, je regardais une vidéo dernièrement d'un type qui vole avec des réacteurs sur les mains ou de choses absolument extraordinaires que l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme en fait, lui fait faire des choses absolument extraordinaires. Seulement, c'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Quel est l'objectif? Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné cette intelligence? Et là, on voit que dans la tour de Babel, cette intelligence est mise au service de l'homme, de son projet. Parce que la première chose qu'il commence à faire, et on le voit dans le point 5, c'est « faisons et bâtissons ». C'est les œuvres. C'est, voilà, c'est exister par les œuvres, par ce que l'on fait, par ce que l'on bâtit. C'est tout de suite, en fait… les psys pourraient peut-être vous dire que le fait de faire, c'est quelque part être dans une espèce d'hyperactivité, c'est la peur de la mort. C'est-à-dire que en fait, l'homme fait et bâtit parce qu'il a peur, de la mort, parce qu'en fait, il est obligé d'exister par ce qu'il fait, par ce qu'il met en œuvre. Et tout de suite, c'est ce qu'on voit, après avoir réfléchi, eh ben, il fait et il construit. Alors, il construit quoi? Il construit une ville. Il veut construire une ville. Et là aussi, ça témoigne de quelque chose, je trouve. C'est que la ville, c'est un système complexe. Mais c'est un système, en fait, qui a son autonomie. Dans une ville, en fait, on crée une autonomie complexe. Et en fait, c'est la première chose qu'il veut faire. Et la deuxième, donc c'est le point 7, c'est une tour dont le sommet atteigne les cieux. C'est impressionnant parce que depuis Adam et Ève, on est toujours dans cette optique-là en tant qu'humain. C'est-à-dire que c'est le rêve d'Icare, c'est celui de vouloir toucher les cieux, c'est celui de vouloir atteindre la demeure de Dieu. Et tout ce que l'homme met en œuvre, en fait, est pour atteindre Dieu, le remplacer, faire un pont entre lui et Dieu, combler ce vide qui le sépare de Dieu, faire que par les œuvres, par ce qu'il met en œuvre, en fait, il puisse montrer qu'il existe aussi. Et c'est le huitième point, c'est « faisons-nous un nom ». C'est-à-dire que l'homme fait les choses parce qu'il a un besoin identitaire fort. Parce qu'à la réponse de la question fondamentale du « qui suis-je ?», en fait, il a besoin de trouver une réponse. Et la réponse qu'il trouve, c'est dans le faire. Je fais, alors j'existe. Je montre ma puissance, alors j'existe. Je suis parce que je possède, je suis parce que je fais. Et en fait, c'est cette manière-là que l'homme a de vouloir répondre à cette question fondamentale, c'est voilà, de créer des choses et de les faire par lui-même. Et ça montre aussi l'orgueil de l'homme. Ça montre l'orgueil de l'homme. Le neuvième point, c'est le moteur avec lequel il fait les choses. C'est-à-dire de peur que, c'est la peur qui fait que en fait, l'homme agit. En fait, il a peur d'être dispersé, comme nous dit le texte, il a peur de ne pas exister, Et donc, du coup, en fait, c'est pour ça qu'il fait les choses. Et le dixième point, c'est le côté sécurité. C'est le fait de ne pas être dispersé, le fait de rester ensemble. Et donc, on voit qu'on peut reprendre la boucle comme ça. Et je me disais, moi, dans ma vie, c'est quoi mes tours de Babel ? C'est quoi, en fait, la manière que j'ai, en fait, de construire ou de m'appuyer sur mes forces, sur le fait de trouver une identité dans ce que je fais ? Est-ce que je ne suis pas aussi moi un peu là-dedans ? C'est-à-dire à me rassembler avec ceux qui me ressemblent, à avoir des quêtes, peut-être sans Dieu, à vouloir me fixer comme ça par besoin de confort et à vouloir y rester. Hein, c'est comme je le disais au départ, c'est cette bulle que je recrée et dans laquelle je suis bien, dans laquelle je n'ai pas envie de sortir. Et puis, je mets les choses en œuvre dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai un travail, j'ai une maison, j'ai des projets, et je ne dis pas que ça soit une mauvaise chose que d'avoir des projets. Mais quand j'exclus Dieu de mes projets, quand je réagis comme ça de manière humaine, peut-être qu'après, derrière, c'est l'orgueil, comme dans ce schéma, qui peut prendre le relais. Peut-être que je finis par exister par ce que j'ai, et quand je n'ai pas, je n'existe plus. Quand je brille, j'existe, et quand je ne brille pas, je n'existe plus. Je pense à ça, là, c'est Madonna qui avait donné une interview et qui avait dit que chaque fois qu'elle montait en scène, elle mettait sa vie en jeu. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle se présentait devant ce public, en fait, c'était sa vie qui était sur la scène. Et ça paraît fou parce qu'on se dit, mais voilà, elle a la reconnaissance, elle a... voilà, on pourrait se dire, bah, elle est un peu arrivée au bout de la quête, quoi. Elle est en sécurité au niveau argent, j'imagine qu'elle n'a pas trop de problèmes. Eh ben non, ça ne suffit pas. La vie et le cercle reprend. Et à chaque fois, il faut se faire un nom. À chaque fois, il faut faire une tour qui atteigne les cieux. À chaque fois, il faut construire, faire, mettre son intelligence sur la table pour exister. Et puis, voilà. Et puis, il y a ce cercle qui reprend. Et je trouve que, voilà. Je voulais commencer le sujet comme ça parce que pour moi, ça témoigne vraiment de cette bulle qui humainement en fait revient dans nos vies et à laquelle on est attaché. Et ça, et je dis ça, ça pourrait être aussi l'Église. Alors c'est un petit peu fort ce que je dis, mais ça pourrait être l'Église, c'est-à-dire une seule langue et les mêmes paroles. Ils partent, une quête, on habite, c'est-à-dire on se fige à un endroit et on décide de ne plus partir. On essaye d'organiser comme ça quelque chose d'un peu un entre-soi et puis voilà, on se coupe un petit peu de l'extérieur et on va voir que dans la suite du sujet que c'est pas ce que Dieu attend de nous, c'est pas ce que Dieu attendait non plus pour les hommes qui ont construit cette tour de Babel. Et on le voit bien que dans le texte qu'on a lu, c'est que pourquoi est-ce que Dieu, en fait, disperse l'homme ? On pourrait dire, bah ouais, en fait, il dit, rien n'empêche, rien ne les empêchera d'atteindre leur projet. On va dire, bah en fait, alors pourquoi tu descends ? Pourquoi est-ce que tu viens brouiller, en fait, leur langage ? Pourquoi est-ce que tu les disperses ? Mais en fait, la vraie raison, que je trouve extraordinaire, c'est par amour. C'est parce que dans ce cercle, comme ça, on peut se perdre, on peut, en fait... ne plus avoir l'essentiel au milieu de nous, c'est-à-dire Dieu, et faire que en fait on tourne un petit peu en rond. Et Dieu vient, s'abaisse, disperse le langage des hommes par amour, et fait que voilà, il va leur demander d'aller ailleurs, de quitter cette bulle de confort, d'être, de fonctionner différemment. Et c'est ce qu'on va voir donc. Dans ce parallèle que j'aimerais faire avec l'appel d'Abraham, qui est pour moi en fait assez flagrant en fait de la différence de ce que nous demande Dieu, c'est-à-dire voilà, on a d'un côté en fait cette tour de Babel, et puis de l'autre côté Abraham. Et Abraham, qu'est-ce qu'il lui est dit ? Vous l'avez étudié en début de semaine, hein, j'ai vu les sujets, donc encore une fois, je ne m'apesantis pas dessus, mais Abraham, Dieu va lui dire, va-t'en de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il y a trois ruptures que Dieu demande à Abraham. Il y a le pays. Le pays, c'est quoi ? C'est la terre. C'est là où on est ancré. C'est aussi l'intérieur de nos frontières. C'est le fait que, voilà, on n'est pas à la rencontre de l'inconnu. On reste dans le connu. Et d'ailleurs, on le voit dans le nationalisme de manière générale, en fait, c'est qu'on est bien ensemble et on a l'impression d'avoir raison contre la terre entière. L'autre a tort, l'autre est ailleurs, l'autre, on regarde la Russie de manière hautaine. On ne comprend pas ce peuple parce qu'on ne le rejoint pas. Parce que aimer, c'est aussi aller à la rencontre de l'autre et le rejoindre dans sa réalité. Et quand on ne quitte pas son pays, eh ben, en fait, on reste dans le connu et en fait on fait des frontières qui séparent. Et Dieu va lui dire va-t'en de cette bulle de confort. C'est aussi va-t'en de ton pays, pour moi c'est un déracinement physique et presque Dieu va dire va et quitte, il y a un enracinement physique, hein, à un endroit. Dieu va lui dire je te propose moi un attachement céleste. Je te propose de quitter cet enracinement physique pour quelque chose, d'autre que tu vas faire vivre par la foi, que tu vas atteindre aussi par la foi. Je vais te montrer un chemin nouveau. Il va lui donner aussi une autre rupture, ta parenté. La parenté, c'est la famille. C'est là où sont nos repères d'enfants. C'est l'endroit où on est enraciné. Je me disais aussi pour moi, c'est l'endroit où on a reçu une identité duquel on a peut-être du mal à sortir. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais quand on revient dans la famille, on a une identité. Et quand on y revient, on a l'impression de re-rentrer dans une case qui est la nôtre et d'avoir un peu du mal à en sortir. Moi, ça me fait ça un peu. Quand je reviens, moi, Yvan, dans ma famille, j'arrive de la maison de famille là, et ben, je redeviens Yvan. Je redeviens ce petit enfant, quelque part, qui essaye d'évoluer, qui essaye de grandir. Mais à ce moment-là, en fait, bah, j'ai l'impression peut-être, et c'est peut-être votre cas aussi, de, j'allais dire entre guillemets, de rétrograder, mais de redevenir ce petit enfant. Et Dieu va dire, bah, quitte ta parenté, Abraham. C'est-à-dire, voilà, il y a un chemin devant toi qui fait que bah, tu vas pouvoir marcher en liberté aussi. Ça ne veut pas dire que la famille, ce soit qu'un emprisonnement, mais peut-être ça peut être ça. Et puis, c'est aussi quitter nos repères d'enfants. Comme je le disais tout à l'heure, on est bien parce qu'on connaît. On a en fait un code, conscient ou inconscient, qui fait que ben, on connaît, on est sur un chemin connu. Et en fait, Dieu, quand on reste sur ce chemin connu, peut-être qu'il y a un manque d'appropriation des fois des choses qu'on connaît. Mais Dieu va lui dire, voilà, je te propose en fait de partir sur un autre chemin avec moi. Et puis la troisième rupture qu'il va lui proposer, c'est la quitte la maison de ton père. Et la maison de ton père, pour moi, c'est le lieu où on reçoit la conviction d'un autre. C'est-à-dire que on a reçu des bases, des fondements. On a été tenu de part et d'autre par l'éducation de nos parents. Et loin de moi l'idée de dire bah, il faut tout balayer pour reconstruire à zéro, mais en fait cette conviction d'un autre, à un moment il faut qu'on se l'approprie, cette conviction en fait qu'on a reçue presque par héritage, en fait il faut qu'elle devienne autre. Et quitter la maison de son père, pour moi c'est voilà, va à la rencontre de tes convictions, essaye de cheminer avec Dieu dans ta vie. Viens, Dieu lui dit viens avec moi pour prendre tout ce que tu es, et puis on va voir ce qui est de paille et ce qui est d'or. On va voir ce qui brûle, en fait, de tes convictions. Et ce qui brûle, c'est ce qui n'était pas approprié. C'est peut-être ce que tu vas laisser. C'est quitter la maison de son père aussi, pour moi, c'est faire le constat, en fait, qu'il y a des bonnes choses, et puis il y a des choses qu'on ne va peut-être pas garder. Des choses qui résonnent peut-être moins en nous, ça ne veut pas dire qu'elles soient mauvaises en soi, mais que si on n'est pas en pleine conviction, la Bible nous dit qu'on pêche. Je pense qu'il faut chercher cette conviction avec Dieu dans nos vies, les yeux dans les yeux, et qu'on puisse s'approprier les choses qu'on a reçues. Et je pense que c'est, je ferai encore un parallèle vis-à-vis de l'Église, c'est que quand on remet les choses en question de ce qu'on a reçu des anciens de l'Église, ça ne veut pas dire qu'on leur dit « vous aviez tort » et que nous avons raison. C'est qu'en fait, on dit qu'il y a des choses qui sont importantes aujourd'hui et qui résonnent pour nous, d'autres pas. Et que si elles ne résonnent pas, c'est qu'en fait, Dieu, dans la vie qu'il veut pour son Église, fait que sans cesse, en fait, il l'a fait changer, évoluer. Il y a des vérités fondamentales qui doivent être évidemment gardées, mais il y a des choses, je trouve, où l'on va quitter quelque chose. Et c'est pas pour ça qu'on dit à nos ancêtres qu'ils avaient tort. Je pense que ça aussi, c'est important de le dire. Peut-être qu'on se fige des fois à se dire il y en a qui ont compris avant nous et on va hériter de cette foi et la mettre en œuvre. Le risque, c'est qu'arrivé à un moment, en fait, il n'y ait tellement plus d'appropriation de ces choses qu'on finisse par se dire en fait, on ne sait plus ce qu'on est en train de faire, on ne le comprend plus. Et Dieu voulait, pour revenir à Abraham, qu'il comprenne. Dieu voulait qu'il marche par la foi. Et il va proposer une destination, c'est le pays que je te montrerai. Et ça demande une foi extraordinaire, je trouve, parce que c'est quand même super flou comme destination, le pays que je te montrerai. Peut-être que c'est une destination un peu inconnue, le pays que je te montrerai. C'est pour moi un endroit où je te demande de me faire confiance. Je vais t'emmener quelque part, mais je vais te demander de me faire confiance sur le chemin que tu vas prendre. Je te dis pas tout. Et je trouve que ça résonne avec nos vies. Quand on marche par la foi, je crois que le sujet de la foi, c'est demain, mais quand on marche par la foi, Dieu nous emmène dans un pays où il nous dit je te demande de me faire confiance. Je te demande de t'appuyer sur moi. Je te dis pas tout. Tu n'auras pas toutes les réponses aujourd'hui, mais là où je t'emmène, fais-moi confiance. Il y a des choses que j'ai envie de découvrir avec toi. Il y a une destination, et cette destination, moi, j'ai la réponse. Et ça devrait te suffire. Et ouais, je trouve que dans nos vies, ça nous aide à nous appuyer réellement sur Dieu. Parce que quand on sait exactement où on va, quand on voit comme dans la tour de Babel où il y a une quête, et puis il trouve, on a la réponse tout de suite. Ça ne demande pas de foi. Ça ne demande pas, en fait, si Dieu nous disait je vais t'emmener là, je vais te faire ça et ça va se passer comme ça, etc. Quand on a la suite de l'histoire, on n'a pas besoin de la foi. En fait, c'est parce qu'on ne connaît pas la suite de l'histoire et que Dieu nous demande de nous appuyer sur lui. On a besoin de cette foi. On a besoin de croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui s'approchent. Et je trouve que ça, c'est s'abandonner à la foi. C'est dire, voilà, je m'appuie complètement parce que dans mon cri de « je ne veux pas quitter ma bulle » qu'on pourrait avoir naturellement, il y a ce relais de la foi. Je ne sais pas si je suis clair, c'est-à-dire qu'il y a en fait le fait de s'appuyer vraiment sur Dieu, que tous les autres appuis, tous les conforts, toute la sécurité, tout ce qu'on a vu en fait dans cette tour de Babel, je puisse le mettre de côté pour mettre Dieu en avant. Et après, on va construire. Après, on va avoir des projets. Après, il va y avoir de l'intelligence qui va pouvoir être mise en œuvre pour la gloire de Dieu, parce qu'il est au milieu, parce qu'il est au centre de nos vies et le fondement, en fait, de nos vies. Il y a une deuxième chose que je voulais souligner aussi dans la vie d'Abraham, c'est « Prends Isaac, ton fils », donc quand il va sacrifier son fils, « Celui que tu aimes, lui, dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. » Je ne m'appesantis pas sur Abraham, que vous avez vu en début de semaine, mais je me dis que Isaac aurait pu devenir une idole pour Abraham. Pourquoi ? Parce que, en fait, il avait décidé à un moment en fait, de tout quitter pour Dieu. En fait, toute cette bulle, il a décidé en fait, de quitter cette bulle et de suivre Dieu par la foi. Et là, à un moment, en fait, il y a une possibilité de s'appuyer sur autre chose que Dieu. Là, il y a une bulle de confort qui se recrée à travers ce fils qui l'attend, ce fils qu'il aime, ce fils unique-là. Et en fait, il peut lui donner la mauvaise place. Et Dieu ne veut pas de mal à Isaac, j'en suis convaincu. Dieu ne veut pas que Abraham égorge son fils. Mais je suis convaincu que Dieu lui dit « Va avec ce qui pourrait prendre ma place. Va avec ce fils sur la montagne. Va le sacrifier. Va jusqu'au bout. Écarte tout ce qui, dans ta vie, pourrait être un fondement et qui pourrait prendre ma place. » C'est ça que lui dit Dieu, je trouve, moi, quand il va demander en fait à Abraham de sacrifier son fils. Il va lui dire « Va jusqu'au bout. Abandonne tout, parce que en fait, je dois prendre la première place. » Et je me disais, pour moi, pour nous, c'est quoi nos Isaacs ? C'est quoi les choses qui prennent la place de Dieu ? C'est quoi les appuis qu'on pourra avoir ? Je trouve que en fait, ça nous remet réellement en question. Est-ce que j'ai vraiment tout donné ? Est-ce que j'en garde pas un peu de côté, histoire d'avoir un pied au sec ? Est-ce que en fait, je garde pas en fait quelque part en fait des choses ? Dieu dit à Abraham, et je trouve nous dit aussi, va jusqu'au bout avec moi. Et puis on connaît la suite de l'histoire, comme je disais tout à l'heure. Alors c'est facile, on se dit, de toute façon, on sait qu'il ne va pas aller jusqu'au bout. Et donc, du coup, sauf qu'Abraham n'a pas feinté de sacrifier son fils. Il avait le couteau en main et il était prêt à aller jusqu'au bout. Et parce que Dieu a vu qu'il était prêt à aller jusqu'au bout, alors il arrête sa main. Peut-être qu'on peut, feinter dans nos vies d'aller sacrifier des choses qui nous sont chères. On dit, la maison, je prends souvent l'exemple de la maison parce que c'est quelque chose pour moi qui est assez flagrant, mais je serais prêt à abandonner cette maison. Pas de problème, je vais monter sur la colline avec mon Isaac, et puis je vais aller au bout, puis je sais de toute façon que tu vas arrêter ma main. Non, c'est trop facile ça. En fait, Dieu dit, abandonne tes Isaacs. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas recevoir nos bénédictions. Et comme je l'ai mis en troisième chose, c'est peut-être que des fois nos idoles sont des bénédictions qu'on a mis en valeur absolue. Ma maison est une bonne chose. Isaac était une bonne chose. Il y a des bénédictions, en fait, qui sont des bonnes choses. Mais parce qu'on les met en valeur absolue, parce qu'elles prennent la place de Dieu, alors elles nous servent peut-être des fois de fondement pour notre confort et notre sécurité. Et Dieu dit, écarte tout ça. Moi, j'ai besoin que tu me donnes la première place. Dieu dit, je veux la première place dans ta vie. Et alors, tu pourras compter toutes ces bénédictions, t'en réjouir. L'objectif en Dieu, c'est pas de rayer les bénédictions de la carte, c'est de ne pas les mettre en valeur absolue. Pour soi, d'abord, et aussi pour les autres. Parce que quand je mets, par exemple, moi, je me suis aperçu, pour moi, pour être assez franc avec vous, que le regard de l'autre, j'avais tendance à le mettre assez régulièrement en valeur absolue. Et le regard de l'autre est une bonne chose. Quand les autres nous regardent, ils sont des vis-à-vis, des miroirs pour nous, et ils sont donnés par Dieu pour que nous puissions avoir en fait un retour, un feedback sur la manière dont nous fonctionnons. Mais si je le mets en valeur absolue, alors non seulement pour moi c'est pas bon, parce que quand l'autre me regarde avec les yeux qui brillent, alors je suis très haut, et puis quand il me regarde avec des yeux moins brillants, je peux être aussi très bas. Et donc du coup l'idée, c'est de lui donner la juste place, et c'est ce que va demander aussi Dieu à Abraham. Il donne à ton fils la juste place. En fait, il lui demande d'aller sacrifier son fils, je pense, pour qu'il lui donne la juste place. Et donc, du coup, voilà, je trouve que ça nous parle dans nos vies. Quelle est cette bénédiction que j'ai reçue, mais qui ne prend pas la bonne place dans ma vie ? Ensuite, j'aimerais souligner aussi la manière dont Jésus nous dit « va et quitte ». Dans Matthieu 19, du verset 29 au verset 30, Jésus dit « Et quiconque aura quitté maison, frère, sœur, père, mère, femme, enfant, champ, pour l'amour de mon nom en recevra 100 fois autant et héritera de la vie éternelle. » Alors, ok, je prends le verset totalement au pied de la lettre, et je pars ailleurs loin, en fait, peut-être, des fois, de ceux qui auraient besoin de moi. Je suis assez convaincu que le Seigneur, en fait, ne demande pas, en fait, de renier nos responsabilités en tant que papa, en tant qu'époux, nos responsabilités aussi vis-à-vis de nos familles. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande de quitter ? Eh bien, je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'il demande de quitter exactement ce que Dieu demandait de quitter à Abraham. Dieu dit à Abraham, va-t'en donc de ton pays, ta patrie. En face, Jésus dit qu'il faut quitter ses terres. Il y a donc cet attachement, comme je le disais, donc du coup, à un enracinement physique. Et puis, il dit ta famille, la parenté, donc du côté d'Abraham, donc, et puis frère, sœur, père, mère, femme ou enfant. Jésus dit une chose, il dit que, peut-être que tu pourrais me le retrouver, Guillaume, mais il y a un verset qui dit que celui-là est mon père, celui-là est ma mère, enfin que les relations sont transformées en... Voilà. Et bien en fait, il me semble, une transformation en fait des relations auxquelles on est appelé. C'est-à-dire que en fait, quitter frère, sœur, père, mère, femme ou enfant, c'est à un moment en fait ne plus s'appuyer sur quelque chose de physique, mais avoir des relations transformées. Aller et quitter les choses en fait sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Peut-être que des fois on pourrait s'appuyer sur la famille, mais Dieu veut qu'on s'appuie sur lui. Peut-être qu'on pourrait s'appuyer sur notre pays, notre nation, les choses voilà qui sont un ancrage, mais Dieu veut qu'on s'appuie sur lui. Et puis la maison de son père, la maison, là aussi en fait on a un parallèle. Je trouve ça assez marquant hein, que on ait ces trois ruptures. Aussi bien proposé à Abraham que proposé par Jésus pour l'amour de son nom. Et donc, une destination, le pays que je te montrerai, et de l'autre côté, Jésus dit hériter, parle d'hériter de la vie éternelle. Et la parole nous dit, et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi seul vrai Dieu, et Jésus, celui que tu as envoyé. Et donc, du coup, je trouve que Jésus va proposer une destination, et cette destination, c'est de connaître Dieu. C'est en fait la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et Jésus. Et donc, du coup, Jésus va dire, ben voilà, quitte tout ça. Et je te propose de quitter toutes ces choses, que ça ne soit plus un fondement pour toi, pour que tu puisses être en relation avec moi. La destination, en fait, que propose Jésus, c'est la relation avec Dieu, une relation intime, une relation profonde, une relation vraiment qui, voilà, sur laquelle on s'appuie réellement dans nos vies, en toutes choses, à laquelle il n'y a plus de... quand on met Dieu comme ça en avant, il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus d'autres fondements, il n'y a plus de barrières. On s'élance comme un saut de foi, hein, la première diapo que j'avais mise, de ce poisson qui saute hors de l'eau. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de l'eau dans le bocal. C'est que, en fait, la relation à laquelle nous appelle Dieu, c'est une relation qui est dans l'océan, une relation, en fait, qui est surprenante, une relation profonde, une relation qui nous déborde là où aussi on a besoin de Dieu pour fondement. Et puis, il y a donc aussi Jésus, donc, face à ce jeune homme riche, et là aussi, ça me parle, je trouve, ça nous parle de va et quitte. Et, bon, ça peut paraître un peu disparate, les différentes histoires, mais je trouve que systématiquement, en fait, ça nous parle d'aller, de quitter. Et là, on a quelqu'un qui refuse. On a quelqu'un qui est triste. On a quelqu'un qui, en fait, où ça bloque. Alors, on va la lire, là aussi, on la connaît. Tu connais les commandements, ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol. Ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Maître, répondit l'homme. Tout cela, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Ok. En fait, de quoi ça nous parle? Ça nous parle, moi je trouve, de religiosité. Peut-être que on est confortable dans la manière dont on fait les choses. Peut-être qu'en fait, on se dit, bah ouais, ça, c'est bon, ça, je l'applique. Et on est bien là. Et peut-être qu'on peut se glorifier aussi de ça. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, il te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens, suis-moi. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. En fait, c'est assez terrible cette histoire, je trouve, parce que on a quelqu'un en fait qui est persuadé qu'il a en fait une bonne bulle de confort, voilà, qu'il est bien, qu'il fait les choses bien, sauf qu'il a un Isaac dans sa vie. C'est cette richesse. Il a en fait quelque chose qu'il n'est pas allé jusqu'au bout de la relation avec Dieu. En fait, il fait tout bien comme il faut. Mais il se laisse un bon pied au sec avec cette richesse en se disant « Bon, je vais tester la relation avec Dieu avec un pied, mais je garde un autre pied en fait sur le rocher au cas où. » En fait, il y a des « au cas où » en fait comme ça. Et Dieu et Jésus pardon, va lui dire « Je te propose en fait d'enlever l'autre pied et puis de le mettre dans l'eau. Je te propose en fait une relation complète. Je te propose que voilà d'aller jusqu'au bout. » Sauf que c'est terrible parce que l'homme, donc, du coup, part tout triste parce qu'en fait, il se rend compte que ce pied-là, il n'arrive pas à le décrocher. Ouais, que ce pied-là, en fait, il est trop important pour lui. En fait, que ça lui sert un petit peu de stabilité. Et c'est cette stabilité un peu humaine, comme ça, cet écosystème dont on parlait au début, c'est-à-dire, voilà, j'ai tout organisé pour cette richesse. J'ai utilisé mon intelligence, j'ai été à la quête de quelque chose, j'ai habité à un endroit, voilà, j'ai construit peut-être des tours et des villes dans ma vie. Et voilà, il y a d'un côté la tour de Babel et de l'autre côté la foi. Et puis donc la personne est dans une religiosité et Jésus va lui dire, voilà, quitte cette tour de Babel, quitte toute cette construction humaine, quitte parce que ça, en fait, ça t'empêche d'aller jusqu'au bout. Et donc, du coup, je trouve que dans ma vie, ça me parle du fait de me dire, qu'est-ce que Dieu me demande d'abandonner? Vers où est-ce qu'il veut que j'aille aujourd'hui, là, maintenant? On va tous reprendre la rentrée, nos habitudes, les différentes... occupations qu'on a les uns les autres et différentes en fonction de nos âges évidemment et nos activités et de tout ce que j'ai devant moi à vue humaine et de toutes mes inconnues où est-ce que Dieu voudrait que j'aille, est-ce que je lui fais complètement confiance, est-ce que si mon compte en banque est plutôt dans le rouge, est-ce que je lui fais confiance, est-ce que si la mer est agitée, est-ce que si tout n'est pas forcément clair sur cette rentrée, est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je décide de tout abandonner pour Dieu? Voilà. Et on a tous des choses qui nous viennent un peu en tête quand on réfléchit à ce qu'on a devant nous sur cette rentrée. Je crois que j'ai mis en conclusion un petit peu cette sculpture que je trouve frappante. De vérité, c'est une sculpture qui s'appelle Les Voyageurs de Bruno Catalo. Et je vous lis ce verset, c'est dans la foi que tous ces gens sont morts sans avoir reçu ce qui leur avait été promis, mais ils l'ont vu et salué de loin. Ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur la terre. Peut-être que quand Dieu nous dit va et quitte, on y voit la souffrance d'un départ, peut-être qu'on y voit la douleur d'une séparation, peut-être qu'on se dit qu'on n'a pas forcément envie d'y aller. Pour moi, en fait, ces images, j'ai mis en point d'interrogation, que voit-on dans ces images? Moi, je vois un homme dont la paille a brûlé et où il reste quand même quelque chose avec lequel il peut marcher, où il attend en fait que Dieu bâtisse le reste, voilà, qu'il le construise dans la relation qu'il a avec Dieu. En fait, pour moi, oui, c'est tous ces mauvais appuis qu'on pense nécessaires aussi. C'est-à-dire que on n'a pas forcément envie de les abandonner parce qu'on pense que c'est ça notre identité. Et Dieu, en fait, quand il nous dit, ben voilà, je t'ai donné une identité, je t'ai fait enfant. Et je me dis, ben voilà, cette identité-là, c'est la seule qui doit être mise en avant, pas dans ce qu'on fait, dans notre petite gloriole, dans la manière dont on peut construire les choses, mais sur Dieu seul. Et je me disais aussi, c'est quoi le moteur qui pousse ces hommes à continuer à marcher comme ça, sans forcément savoir où ils vont? C'est la foi sincère, même sans savoir ce qu'ils vont trouver en fait au bout du chemin, d'avoir confiance, de regarder devant, de se dire que en fait dans leur vie, ce qui compte plus que tout en fait, c'est pas tout ce qu'ils ont construit, mais c'est la manière dont ils ont construit avec Dieu et toutes les convictions qu'ils ont, et ben c'est ça en fait leur trésor. Voilà ce que je voulais vous présenter, qui était assez fort à recevoir pour moi. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette présentation.
Merci Yvan. Alors, il y a toujours des questions. On va simplement attendre qu'elles viennent, qu'elles arrivent. Pour avoir des questions, il faut forcément quitter son pays, sa parenté, son père. Ça prend un petit peu de temps. Des fois, sa mère aussi. Hein.
Ah oui. Oui. Comme il quittera son père et sa mère.
Donc, chacun peut reprendre son micro et parler, ou bien envoyer un petit message. Pour ma part, je dirais que les fausses stabilités, c'est quelque chose que je n'aime pas. Je ne suis pas quelqu'un qui aime le hors-piste, je ne pense pas que je sois comme ça. Je suis plutôt quelqu'un de classique, mais après tout est relatif. Mais je n'aime pas les rails. C'est-à-dire que j'ai envie de vivre là où je crois que je dois vivre. Et c'est vrai que je suis plutôt assez indépendant des autres que dépendant. J'étais là pour dire que c'est aussi comme ça que j'ai été élevé, à avoir une conviction personnelle, à être indépendant. Mais je trouve que les fausses sécurités, c'est affreux, parce qu'on a vraiment conscience qu'on est dans des fausses sécurités et en même temps, on se convainc qu'on en a besoin. On tourne en rond dans quelque chose qui est pas productif et qui est pas sain, alors que finalement, l'attente, l'éternelle attente de ce que Dieu doit nous donner, c'est excellent en fait. On ne sait pas ce que Dieu nous donnera aujourd'hui, demain, mais finalement, quand on lui fait confiance et que ça arrive, je trouve que c'est vraiment très agréable. Ce qui fait que je te remercie beaucoup de cette comparaison entre Babel et Abraham, que je n'avais jamais faite, et qui nourrit ma conviction de devoir finalement partir, être éternellement en train de rechercher ce que nous avons à recevoir de Dieu.
Alors, moi aussi, je te dis merci beaucoup, Yvan. J'ai beaucoup apprécié. C'est intéressant. C'est vraiment
c'est vraiment le chemin de nos vies que tu, dont tu parles. Et en tout cas, c'est le chemin de ma vie aussi. Tout ça, ça fait écho en chacun, et ça fait peut-être même tellement écho que voilà, il n'y a peut-être pas beaucoup de questions et de gens qui font écho, parce que c'est parfois difficile de faire état de cet écho. voilà, les fausses sécurités, on ne s'en aperçoit pas toujours qu'on est sur des fausses sécurités. Et je crois que, justement, Dieu nous bouscule, Dieu nous ébranle, il nous appelle à sortir, à partir, à vendre tout ce que l'on a, à faire comme Pierre Baldo, de manière concrète parfois, de manière autrement parfois, dans nos idées, dans notre relationnel, dans notre vie de famille, dans notre vie d'église aussi, ça peut arriver, hein, de faire le point. Sincèrement, et je crois que quand Dieu nous bouscule, ne refusons pas ce bousculage de Dieu, tu vois. Je dis ça, et parfois on peut refuser ça quelque part. On peut emmener avec nous des gens de notre parenté, des choses comme ça, ou être mal si je ne reviens pas toujours à mon point de départ, etc., dans mes cévennes ancestrales, pour prendre une image. Et Dieu nous appelle vraiment à sortir de nos zones de confort, ça j'en suis persuadé. C'est très bien.
Sachant que c'est confortable d'en être sorti.
Voilà, parce qu'on retrouve, tu sais, la comparaison qui me venait lorsque tu t'es exprimé, c'est que sortir de son pays, tu as bien parlé de la terre, c'est important la terre. Moi, je suis en train de relire un livre sur l'histoire de l'Allemagne, l'histoire des nations, c'est très important, la terre, l'attachement à la terre, etc. Et je me dis, est-ce que Dieu, il ne veut pas parfois nous arracher de la terre dans laquelle nous sommes, dans laquelle nous voulons prendre racine, etc. Et que avec Abraham, par exemple, il veut que nous développions des racines aériennes, être de ces plantes qui vivent de racines aériennes, c'est-à-dire par la foi. Et là, je peux vivre quelque part partout avec ces racines aériennes, parce que je suis en relation avec Dieu. C'est une image, une parabole, on est bien d'accord, on est appelé à vivre sur la terre, mais je crois que c'est très très important cela. Avançons comme cela.
J'ai bien aimé ce que tu as dit à propos de Isaac. En fait, c'était pas Isaac qui était le problème, c'était la place qu'il pouvait lui donner. Et oui, il y a des fois, il faut quitter des choses, mais c'est pas... C'est réviser la place qu'on leur donne.
Je ne sais pas pour ceux qui l'ont lu, mais j'ai lu dernièrement en fait le bouquin de Tim Keller sur les idoles du cœur. Et il en parle assez bien de cette manière qu'on a en fait de faire de bénédiction des idoles.
Ça peut paraître très bizarre de dire ça comme ça.
Pardon, excusez-moi.
Mais c'est vrai, quand on y regarde de plus près, on voit des choses dans nos vies qu'on a mis en valeur absolue, qui sont pourtant des bonnes choses
à la base.
L'argent n'est pas une mauvaise chose, par exemple.
Permet de faire des choses.
Donc, on met des coups dans nos vies. On essaye de sécuriser un peu en disant que je l'écarte, je le mets dans mon panier, mais en fait c'est plus complexe que ça.
Et du coup on peut faire une bonne chose, une mauvaise chose.
Et puis tu parlais de Richard, le fait d'être bousculé. Le Covid nous a tous bousculés. On a bien parlé,
mais
je trouve qu'on est encore bousculés. Si on est comme ça, un peu éclaté à droite, à gauche, c'est parce qu'on est bousculés. Et je ne sais pas dans vos vies.
S'il vous plaît, il y a un micro.
Attends, il y a Philippe qui parle. Comment ça se fait qu'il y a de l'écho comme ça?
Parce que, Guillaume, il faut couper ton micro. Voilà. Merci. Voilà. Merci. On n'entend plus là. Il n'y a plus rien.
Est-ce que tu m'entends, Yvan? Yvan, tu m'entends? J'ai une chose à ajouter. Merci de ce message sur Isaac, sacrifier Isaac. Tu m'entends, Yvan?
Roland, il y a des problèmes de son. Attends, ça va être résolu, Roland. On est en train de résoudre les problèmes de son. Attends.
Vas-y.
Ah oui.
Là, ça y est. Oui, Roland, on t'entend.
Oui, merci de ce message sur Isaac, sacrifier son Isaac. Je vais me demander aujourd'hui qui est mon Isaac. Et j'espère que ce n'est pas ma femme.
La fille de...
Mais je vais réfléchir et méditer qui est mon Isaac. Mais je veux ajouter que le premier missionnaire qui est venu aux îles avec l'Évangile en 1865, il a quitté l'Écosse. Il a même quitté sa petite fille. Il est venu aux îles et il a travaillé 13 ans avant d'avoir vu le premier converti. Mais le Seigneur lui a donné une nouvelle femme qui était, il y avait une différence. Elle était beaucoup plus jeune que lui. Il y avait une distance de 19 ans entre les deux. Quand le Seigneur lui a donné une fille qui s'est convertie aussi. Elle avait seulement 21 ans, je crois. Et il avait environ 40 ans. Et il a travaillé aux îles. Et maintenant, on a établi environ 25 assemblées. Et le problème pour nous, c'est de quitter les îles. Mais ce n'est pas difficile de quitter les îles pour la France. Mais aujourd'hui, le COVID nous a stoppé. Nous prions que le Seigneur va nous guider. Merci Yvan de ce message sur Isaac. Je vais méditer aujourd'hui. Qui est mon Isaac? Je ne sais pas encore.
Vous m'entendez?
Oui.
On entend, oui. C'est bon.
Merci Jean-Louis.
Je parlerai après.
Le Seigneur te bénisse. Merci.
Oui, juste pour compléter, vous m'entendez bien là, ça va? Yvan, tu m'entends aussi?
Oui.
Donc voilà, moi, ça m'a bien intéressé ce que tu as dit en complément sur Abraham, parce que c'est vrai que la vie d'Abraham est inépuisable et j'étais intéressé par la façon dont tu le dis. Et ce que je goûte, c'est. Je crois que parfois, on pourrait voir cette espèce d'insécurité. d'une certaine manière, lié au fait de sortir la zone de confort, on pourrait le voir en négatif en se disant mais je vais reculer devant la vie chrétienne parce que elle me finalement elle me procure plus d'impression de malaise, d'inconfort qu'autre chose. Mais moi, je goûte le plaisir de connaître Dieu. Ce matin, notamment, il y avait sur une radio France Inter, pour pas la citer, l'interview d'un philosophe qui s'appelle Frédéric Worms et qui a écrit « Sidération et résistance ». C'est quelqu'un qui vient de publier ce livre, « Sidération et résistance ». Il est chroniqueur à Libération et il va de la période 2015 à 2020 en partant depuis, en gros, Charlie Hebdo jusqu'au Covid. Et en gros, ce qu'il explique, c'est qu'on est sidéré, c'est-à-dire au sens littéral du mot, on ne sait pas quoi faire devant ça, parce que tous les moyens humains sont inadéquats, et l'homme, d'une certaine manière, est désemparé. Toute sa technologie, toute sa culture, toute son éducation n'importe rien. Et la seule solution qu'il donne, finalement, au fond, c'est d'essayer de cultiver une sorte de résistance, mais c'est toujours des moyens humains, et ça m'a fait vraiment... ça m'a beaucoup intéressé ce parallèle, parce que juste après avoir entendu ça, qui est un message assez... finalement sans espoir, d'une certaine façon. Toi, tu as rappelé et tu as montré que, bon, certes, il y a ce sortir de sa zone de confort, mais il y a quand même le pays promis, la destination. Et moi, je trouve que c'est précieux, quoi, dans ces temps de crise. Parce que finalement, la fausse sécurité, quand elle disparaît, ben, un non-chrétien, il n'a que le désespoir, quoi.
Oui, voilà. Il peut recommencer sans cesse aussi à tourner dans des projets et puis en fait à exister par ses projets. Je parlais de Madonna, mais je pense que le monde sans cesse en fait remet en jeu son identité dans ses projets. J'ai tendance à penser que la tour de Babel a jamais été aussi grosse aujourd'hui dans le fait que petit à petit, en fait, on monte. Alors, je ne suis pas alarmiste de manière générale.
L'antichrist, en
fait. Mais voilà.
L'aboutissement.
Ouais. Petit à petit, en fait, on voit étage après étage des choses absolument incroyables. Enfin, là, pas plus tard qu'hier, on voit un gars qui. La marine américaine, maintenant, débarque sur les bateaux avec des réacteurs aux mains et les gens volent. Enfin, ça c'est un exemple parmi tant d'autres en fait de l'intelligence humaine qui a fait que quand Dieu dit à la tour de Babel rien ne les empêchera plus, c'est il y a un emballement du système qui fait que en fait Satan fait accélérer ce processus jusqu'à effectivement ce que disait Guillaume que l'antichrist en fait arrive et donc du coup en fait on voit que l'homme se glorifie sans Dieu. Pense qu'en fait, il a remplacé Dieu en fait par son intelligence. Il construit sans Dieu, sans glorifie, et dans un système assez complexe en fait, dit que en fait, l'appel d'Abraham à côté de sa construction à lui, en fait, c'est une ineptie, c'est inhumain de réagir comme ça. Et il a fallu des bousculades. Maintes reprises dans les hommes de foi pour justement que fassent le pas d'aller et de quitter ce système-là, quoi, je trouve.
C'est vrai.
Si vous me permettez, j'aimerais bien revenir sur l'aspect de tout quitter. On est appelé pour un service particulier pour le Seigneur, on est appelé à partir comme missionnaire, on est appelé à faire un autre travail, une autre activité, mais c'est pas simple. Il y a un aspect de souffrance là derrière. Tout quitter pour le Seigneur, tout quitter pour le salut des âmes, tout quitter parce que nous avons une espérance merveilleuse. Mais n'y a-t-il pas aussi cet aspect du manquant ? Le missionnaire se trouve tout d'un coup dans un pays et puis réalise qu'il y a des difficultés, qu'il lui manque sa famille, qu'il lui manque ses biens. Paul Tournier insiste beaucoup là-dessus, sur le manquant dans nos vies. Bien d'accord de tout quitter, bien d'accord de tout faire pour le Seigneur, mais soyons conscients que nous pouvons marcher sur un chemin avec une certaine souffrance parce qu'il nous manque des choses. Et pensons à combler ces manquants par des contacts avec d'autres chrétiens, des contacts avec des amis, en ayant des projets pour le Seigneur, en ayant diverses solutions qui comblent ces manquants pour que nous ne souffrions pas trop en quittant tout. Je ne sais pas si Guillaume peut ajouter quelque chose, lui qui s'y connaît dans cet aspect des manquants, certainement. Ces souffrances qu'on peut avoir en ayant tout quitté.
Merci Pierre de me poser la question. En t'écoutant, je me disais que... Mais excuse-moi parce que je dis ce que je ressens, hein, mais que j'ai manqué de rien. C'est-à-dire que c'est tellement gratifiant en fait d'être dans cette dynamique de quitter la sécurité doctrinale. On a quitté en 94 pour dans un moment où doctrinalement parlant c'était très difficile, mais c'était tellement gratifiant de recevoir en fait petit à petit des choses que j'ai pas eu l'impression de manquer. Après Isabelle
faudrait l'écouter, elle.
Mais elle va être là, elle est là, hein, en fait, hein. Isabelle, oui.
C'est souvent l'épouse qui a des manquants. Il y a bien des missionnaires qui sont partis en mission. L'épouse tombe dans la dépression parce qu'elle n'a plus de but, elle a plus, il lui manque.
Écoute, je lui laisse la place, mais je suis à côté d'elle. Hein. Vas-y, assieds-toi.
Isabelle, il faut simplement que tu répondes à une question, mais tu n'as pas entendu la question. Alors, débrouille-toi, Isabelle.
En quittant tout, en se mettant au service du Seigneur, tu m'entends ?
Oui, j'entends. Oui.
En quittant tout, en se mettant au service du Seigneur, par exemple, n'y a-t-il pas chez toi, épouse de Guillaume, certains manquants ? Guillaume, il a son activité débordante, il est convaincu de ce qu'il fait, mais toi, tu n'as pas eu le sentiment d'être mise de côté, de souffrir de ce fait que ton mari est tellement actif pour le Seigneur, ayant tout quitté, et toi, tu essaies de suivre.
Alors, je pense que c'est un choix qu'on a quand même fait ensemble.
Oui.
C'est vrai, j'avais moins d'activité que lui, mais j'ai aussi fait le choix de privilégier la famille. Pour que les enfants justement souffrent pas d'une activité importante, du dévouement aux autres, des déplacements. Donc c'est vrai que j'avais aussi un projet avec nos enfants. C'est vrai que si on n'avait pas d'enfants, peut-être qu'on aurait fait différemment. Mais là, donc j'ai pas travaillé, j'ai pas eu d'autres activités pour aussi pouvoir dégager du temps pendant que les enfants étaient à l'école, par exemple, pour faire certaines activités, pour l'accueil à la maison. Donc, dans ce sens-là, je participais aussi au travail de Guillaume. On n'a pas eu, comme certains qui sont partis dans d'autres pays, nous, on est restés, on n'a pas eu ce problème du manque, on a gardé nos amis sur place. On est resté dans la même maison depuis plus de 30 ans maintenant, donc il n'y a pas eu de gros changements en fait dans ma vie. C'est peut-être plus maintenant que je le ressens.
Ah oui.
Voilà, puisque les enfants sont à la maison, quelle activité je peux avoir. Voilà, c'est plus peut-être maintenant que je le ressens, cette différence de... Oui, du projet qu'on a ensemble.
Mais on peut témoigner tous les deux. Excuse-moi, juste un tout petit mot. On peut témoigner tous les deux que quitter, c'était quand même, c'est pas le centre de notre démarche. Notre démarche, c'est de partir, d'obtenir. En fait, hein, c'est de quitter, c'est un moyen, mais quand on est dans cette dynamique de partir,
franchement, c'est fantastique.
Oui, oui, on est bien d'accord. Mais certains ont des manquants, c'est-à-dire une souffrance, parce qu'il leur manque quelque chose. Alors, c'est très beau ce que tu as dit, tu as eu cette compensation avec ta famille. Je le dis pour ceux qui quittent tout, faites bien attention d'être sûr que vous n'ayez pas des manquants. Aussi, il y a des manquants, il faut les compenser avec des projets pour le Seigneur, en pensant à son conjoint, en pensant à sa famille, pour qu'eux ne souffrent pas de cette situation.
Mmh. C'est vrai qu'on
a vu trop de missionnaires et trop de serviteurs du Seigneur qui ont tout quitté parce qu'ils n'en avaient plus.
C'est ce qu'a fait Pierre Valdo, d'ailleurs. Oui. Il a mis à l'abri sa famille, puis lui est parti.
Ouais. Voilà.
Peut-être un détail, excuse. Un détail, c'est que une chose était claire pour Isabelle et pour moi dans ces années entre 89 et 94, 5 ans, c'est que on allait rejoindre un projet.
Pouvoir développer un projet.
Voilà, plus que ouais. Le fait de quitter quelque chose qui nous plaisait ou qui nous ne plaisait pas. C'est-à-dire que j'avais un travail très intéressant, j'étais opticien 12 ans, on avait une situation installée où j'avais un magasin à reprendre.
Tu aurais pu faire carrière.
Voilà, mais... on était content de ce qu'on quittait. On n'a pas quitté par dépit. On était content de ce qu'on quittait et on était content de trouver ce qu'on allait trouver. Ce qui fait que c'est vrai que cette notion de manque, on ne peut pas dire qu'on l'ait beaucoup vécu. Oui.
Surtout qu'on restait au même endroit, avec les mêmes les amis qu'on avait sur place, on ne les quittait pas. C'était... Oui, je pense qu'on l'a certainement moins vécu que d'autres qui partent carrément à l'étranger avec un changement de culture en particulier. Nous, on est restés dans notre culture, on a fréquenté les mêmes personnes, on pouvait voir nos familles presque plus facilement que lorsque tu avais un emploi, parce que c'était limité au dimanche, lundi ou aux vacances.
C'est pour ça que tu as raison, Pierre, de mettre l'accent sur le manque. Hein.
Oui, parce que ça doit être tout à fait une question à envisager quand on part, ouais. Mais il peut y avoir le manque parce que ce n'est pas la même situation financière pour quelqu'un qui aurait une carrière en perspective et qui change. Ça peut être le cas aussi.
Ça vaut la peine de lire le livre de Paul Tournier sur la souffrance. Il en parle justement et donne des solutions pour ces manquants. C'est-à-dire on a une espérance merveilleuse devant nous, avec le retour du Seigneur, on a sa parole, on a l'affection fraternelle, il faut chercher toutes ces choses lorsqu'on manque.
J'aimerais juste rajouter quelque chose. Vous m'entendez ?
Oui, oui, très bien.
Oui. L'exemple d'Abraham, pour moi, il est quand même un petit peu différent. C'est-à-dire qu'Abraham, on peut penser qu'il n'était pas croyant au départ et qu'il sortait d'une famille où il n'y avait pas de croyants. Donc, c'est plus une image de quelqu'un qui va se tourner pour nous maintenant vers le christianisme, qui va devenir croyant et qui doit quitter les choses de la terre, en quelque sorte. Les familles, sa famille non croyante, son pays où c'est peut-être des idoles, et puis écouter la pensée divine. Voilà, moi, je trouve quand même une petite différence avec un croyant actuel qui va quitter une position particulière pour aller dans un service missionnaire, ou je trouve quand même un petit peu différent.
Oui, je comprends ce que tu dis. Il me semble qu'il faille faire attention à ne pas se sentir arrivé non plus. C'est-à-dire que la notion de vie, je suis bien là où je suis, fait que en fait, peut-être qu'on tombe dans une tiédeur confortable. Et je pense que du coup, en fait, je comprends tout à fait ce que tu dis, et à mon avis, ça s'applique complètement. Mais les voyageurs que nous sommes, en fait, sont à mon avis, et comme comme cette sculpture que je présentais à la fin, en marche tout le temps vers quelque chose avec une promesse qui est la leur, une promesse céleste. Et quand ils posent leurs bagages, peut-être que des fois ils s'enracinent et ils habitent à quelque part et ben voilà. Et ils partent pas avec rien. Enfin, c'est-à-dire que le vide dont tu parlais existe, je pense. Enfin, en tout cas, moi, je présentais aussi cet artiste, cette sculpture, parce que le manque, il existe. C'est des personnes en marche, avec une espérance dans leur sacoche, mais ils marchent. Ce sont des voyageurs et des forains sur la. Je crois qu'il y a une traduction. Je crois que c'est pas celle d'Arby qui parle de forains sur la terre. Et peut-être que le fait de se sentir arrivé ou le fait de comment. Il y a aussi un autre passage qui dit vous avez commencé à régner sans nous, non ou, Je trouve que ça nous parle de se sentir arrivé. Peut-être que c'est aussi. Ne pas peut-être entendre l'appel qui peut être le nôtre, pas forcément d'aller à l'autre bout du monde, ni de, d'avoir une mission particulière, mais rien que de vivre en tant que chrétien, qui en fait remettons sans cesse sur l'établi, ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas dans nos vies. Je trouve que ça me semble important, mais
je continuerai bien ce que Yvan vient de dire en disant que, et puis ce qu'on a dit avant, Guillaume, le fait, je ne mettrai pas l'accent en fait, et il me semble que Genèse 12, avec ce départ d'Abraham, ne met pas, bon, il y a l'accent sur quitter, mais il y a aussi va dans le pays que je te montrerai. Et puis, nous avons cette magnifique expression qui, en hébreu, j'ai découvert ça il y a peut-être bientôt 20 ans, et qui nous dit, c'est le mot hébreu a un sens qui veut dire « va vers toi-même ». C'est-à-dire que c'est vraiment ce voyage de la vie où je découvre cette marche en relation avec mes racines aériennes, comme je disais tout à l'heure, en relation avec Dieu, Mais c'est aussi que je découvre vraiment qui je suis, sans balancer le bébé avec l'eau du bain. Ça, Yvan, tu l'as très bien dit. Hein, on a des repères, on a eu des pères pour cela. Il s'agit pas de, mais il s'agit de vraiment quelque part construire sa vie. Et on la construit avec Dieu par la foi. Et on avance comme ça. Et c'est là où je trouve quelque part ma vraie stabilité. Moi, je n'ai pas été appelé, ou si je l'ai été, je n'ai pas entendu l'appel à partir outre-mer ou à d'autres engagements, peut-être, comme on a fait allusion avec Guillaume et Isabelle, mais j'ai vécu d'autres choses dans ma vie et je crois que c'est cela. Hein. C'est cette vie avec Dieu, vers moi-même, je me trouve ce que je suis vraiment dans ma relation avec Dieu. Et je crois que c'est à cela que nous sommes appelés.
Pour abonder dans ce sens, on pourrait penser que les noms d'Abraham et Saraï, quand ils ont été changés en Abraham et Sarah, il y avait une signification profonde qui a été donnée par Dieu. Saraï ne sera plus la princesse de son père, mais elle sera princesse tout court. Il y a bien une rupture qui a été faite dans son identité. Elle est devenue ce qu'elle devait être. Et c'est la question qu'on peut se poser. Moi, j'en suis où dans le plan que Dieu a formé pour moi? Je ne sais pas. Tant que la dernière page n'est pas écrite, il y a encore des choses que nous devons apprendre et faire. Ce que je crains, c'est que la remise à cause systématique de tout ce qui peut avoir été notre vie précédente, c'est une démarche que moi j'ai effectuée en ce qui me concerne. Et un frère qui est auprès du Seigneur aujourd'hui depuis longtemps m'avait même conseillé de le mettre par écrit. Écris que tu ne crois pas que Jésus est mort pour toi. Vas-y, écris-le. Écris que tu ne crois pas que la Bible est la vérité. Écris pour dire que ce n'est pas vrai, Dieu n'existe pas. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Hein. Et je crois qu'on a besoin de temps en temps de recevoir sur ce qui fait réellement l'ancrage de notre foi. Est-ce qu'il y a des choses qui sont venues polluer, des choses qui sont venues nous écarter, des choses qui, en fin de compte, sont des éléments perturbateurs dans notre avancement spirituel. Je crois que c'est une bonne chose. J'aime beaucoup cette expression « quitter sa zone de confort », non pas comme étant un but en soi, mais pour se demander si un jour on n'a pas voulu, dans l'expression qui avait été rappelée tout à l'heure, « régner avant le temps ». Voilà. Je te remercie beaucoup, Yvan, pour ta présentation.
Je pense que, pour revenir à la remarque de Pierre-André, sur le manque, je pense que le manque est un lieu extraordinaire de progrès. Seulement, il y a les optimistes, les pessimistes et les réalistes. Moi, j'essaie d'être réaliste. C'est-à-dire que le manque est quelque chose que Dieu permet et quelque chose que Dieu, dans lequel Dieu permet que nous soyons afin que nous en fassions quelque chose avec lui. Et donc, Pierre a tout à fait raison d'insister sur les conditions assez extrêmes de solitude, de repères différents. Je pense à ce missionnaire qu'on connaît qui est allé au Tadjikistan, où il y a vraiment une culture, il y a une opposition politique, une opposition culturelle. Il y a tellement de choses qui sont contraires que... il faut vraiment réfléchir comment est-ce qu'on peut être un missionnaire efficace, entre guillemets, hein, dans ces conditions-là. Personnellement, mes manques, ce sont par exemple, je le dis courtement, ça serait un sujet en soi, hein, mais c'est l'opposition entre... ce qu'affirme la psychologie et la psychiatrie et ce qu'affirme la Bible. C'est-à-dire que dans le travail pastoral, il y a, je trouve, une difficulté où on est vraiment à contre-courant quand Ecclésiaste 7, verset 18 dit « qui craint Dieu sort de tout », alors la psychologie et la psychiatrie va dire « mais non, les psychotiques ne sortent pas, les autistes, les maniaco-dépressifs ou les bipolaires, ou etc. » C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de personnes qui ne sortiront jamais, soyons réalistes. Mais moi, je ne critique pas la psychologie ou la psychiatrie, mais mon but, c'est de mettre Dieu au centre. Et donc, le manque, c'est quand même l'opposition assez générale et précise d'un ensemble de choses dans les aspects évidents de que la société porte sur l'homosexualité, sur les pratiques sexuelles de tout genre, sur l'argent, etc. Et nous, donc, d'aller à contre-courant sur ces choses-là en affirmant qu'il nous faut faire confiance dans Dieu, en Dieu et dans sa parole. Alors là, il y a un manque, mais je me dis, mais si moi, je ne sais pas gérer ce manque, alors il vaut mieux que je reprenne mon travail précédent. C'est un peu ça ma démarche. C'est-à-dire que j'ai commencé par essayer d'appliquer ces choses-là à moi-même en disant, voilà, qu'est-ce qui me bouscule, qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui me manque, qui m'ennuie et qu'est-ce que je peux faire avec ça. Et dans la mesure où j'ai trouvé certaines clés, alors, des clés pas dans l'humanisme, hein, des clés dans la relation avec Dieu, alors pouvoir les proposer, dire aux autres que je les ai comprises et comment est-ce qu'on peut aussi les comprendre. Ce qui fait que, c'est pour ça que je dis que le manque m'a été et m'est quelque chose d'extrêmement gratifiant. Mais tu comprends, Pierre, je ne vais surtout pas contre ce que tu as dit. Hein. Hein, justement, il faut savoir rebondir sur ça.
J'attendais à cette réponse, oui. Il y a encore un manque. On a parlé d'Abraham, peut-être c'est le nouveau converti. Pensons à ceux qui viennent d'autres religions, sans mentionner les religions, qui viennent au Seigneur et qui sont rejetés par leur famille, par leur entourage. Alors bon, Abraham était seul, il avait la foi, il avait un but. il n'était pas accompagné, mais pensons au manquant de ces personnes et entourons ces réfugiés, entourons ces personnes qui viennent d'autres pays, d'autres religions et qui manquent, qui ont un but pour le Seigneur, bien sûr, mais à nous de les entourer, à nous de les aider pour combler ces manques.
Alors, à propos de manque, je vais vous donner un vécu qui est assez particulier, qui est le mien, quelque part, enfin, que je n'ai pas retrouvé chez d'autres, mais peut-être que certains se retrouveront. C'est que j'ai toujours rêvé, étant petit et puis étant jeune, d'avoir, est-ce que j'ai trop lu les livres de la comtesse de Ségur quand j'étais tout petit, où les enfants se retrouvaient dans la maison familiale, à l'époque c'était un château, et ils se retrouvaient l'été entre cousins, tonton, tata, enfin on disait pas tonton à l'époque, ni tata bien sûr, hein, on disait tante Hortense, hein, l'idée d'avoir justement un point d'attache, un point de... tu faisais allusion à cela, Yvan. Vous voyez, c'est... et ensuite, on n'a pas eu ça dans la famille chez mon père. Voilà. Il a un petit peu, mais non, on n'a pas eu ça. Et puis, moi, je ne l'ai pas fait, je n'ai pas su le faire probablement ou voulu le faire. Enfin, puis ma vie a été bousculée aussi, très bousculée. Et de ce fait, de ce manque m'a entraîné dans une dynamique extraordinaire que je constate, je ne sais pas pourquoi, c'est que quelque part, j'allais dire je suis bien partout, n'ayant pas de maison familiale où me raccrocher, mais plusieurs d'entre vous avez des maisons familiales, des pays, en Suisse, on chante « Et monde aux montagnes hein, », n'est-ce pas hein, c'est, nous sommes bien d'accord, et je l'ai chanté tout gamin parce que j'avais une grand-mère suissesse. Hein, et donc, et du fait, c'est comme si je m'appropriais partout là où je suis. Donc, ne m'invitez pas trop chez vous parce que je vais m'approprier les lieux. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est ce fait d'être… Je ne sais pas comment le dire, je vous dis ce que je vis et Cathy pourrait vous le dire. Je suis chez moi partout. C'est très curieux. Vous voyez, alors, c'est pour illustrer ce fait que… Il y a de la dynamique, il y a du dynamisme dans les manques. Vous voyez ce que je veux dire? Et en entendant bien ce que tu dis à la suite de Paul Tournier, hein, on est bien d'accord. Et vous savez qu'un philosophe contemporain est même arrivé à nous dire « le manque du manque me manque ». Voilà.
Peut-être une réflexion générale qu'on peut aussi avoir à la suite de cette présentation, c'est comment avoir un regard lucide sur Babel. Comment avoir un regard lucide sur la société. Je pense que de toute façon, notre regard sur Babel ne doit pas nous emprisonner, nous gêner, nous... Il ne doit pas nous placer en opposition avec les citoyens. Il faut qu'on soit conscient, en fait, de ces fausses sécurités, mais il ne faut pas qu'on soit ni méprisant, ni craintif, ni... il faut qu'on soit lucide, en fait, sur les fausses sécurités. La fausse sécurité du groupe, par exemple, dans l'Épître aux Corinthiens, pour parler de l'Église, le premier problème que traitent les quatre premiers chapitres, c'est les clans. Hein? Et les clans sont les fausses sécurités. Le problème que traite le chapitre 5, c'est celui du plaisir. Hein? Du plaisir, plaisir sexuel. Au chapitre 6, c'est celui du patrimoine. Avec l'esclavage au chapitre 7, etc. Et donc, il faut qu'on ait vers la société un regard lucide en disant, ben là, ils ne sont pas partis de leurs mauvaises habitudes, et donc ils sont en chemin, et donc nous, on ne juge pas les chemins, mais on a conscience, en fait, que ce n'est pas le chemin que nous, on veut prendre. je pense qu'il faut être libre par rapport à Babel. Il ne faut pas être, il faut pas dire, si on commence par dire « moi, je ne suis pas dans Babel », y a un peu une forme d'emprisonnement, il y a une forme d'orgueil.
Il faudrait presque faire l'inverse, c'est-à-dire moi, peut-être des fois, j'ai tendance à être dans Babel, ou en tout cas d'avoir un système de fonctionnement qui ressemble. Ce que ça me fait penser, ce que tu disais, c'est comment est-ce que je vais à la rencontre de l'autre, de la réalité de l'autre. Je crois que aimer l'autre, et c'est J.S. Lewis qui disait dans les fondements du christianisme, il disait, il y a un chapitre qui commence ce que les chrétiens croient, et puis il attaque ce chapitre en disant, je vais dire déjà ce qu'ils ne sont pas obligés de croire, c'est de croire que l'autre a forcément tort. Et en fait, ça m'a fait sourire parce que c'est souvent en fait notre pensée, et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est-à-dire en fait où on montre du doigt en tant que chrétien que là, il y a quelque chose qui ne va pas et on se porte en juge. Et quand on fait ça, on ne rejoint pas la réalité de l'autre. Et quand on voit la vie de Jésus et la manière dont il rejoint la réalité de ceux qui l'entourent, et eh ben en fait il le fait pas en montrant du doigt, mais en allant à la rencontre de l'autre. Et je trouve que quand on a un fonctionnement clanique, on va pas à la rencontre de l'autre. Quand on parle tous la même langue et le même langage, on ne va pas non plus à la rencontre de l'autre. On se referme sur nous-mêmes en pensant qu'on a raison contre le reste du monde. On a un peu cette vision du village gaulois parfois aussi. C'est-à-dire, on a fait des palissades autour d'une réalité où les Romains assaillent de toutes parts et où, voilà. Parfois, on a cette image-là, hein, même de l'Église, hein, où on fait un gros banquet, tu sais, on fait une agape, là, avec le sanglier, et puis on sort tous un bon coup contre les Romains, et puis on re-rentre tous, et puis on est content d'avoir fait quelque chose ensemble. Et je trouve que cette vision du village gaulois, elle est quand même fausse, clanique et isolante. Et si on est dans le monde, ce n'est pas pour faire des palissades de 3 mètres de haut autour de nous, mais pour aller à la rencontre de l'autre. Je trouve que c'est aussi important.
Qui est-ce qui nous citait depuis le début de la semaine ce que quelqu'un lui disait entre le lien et le bien ? Qui est-ce qui nous racontait ça ? Jean-Louis. Peux-tu nous le redire, Jean-Louis, s'il te plaît ?
Oui, alors c'est un collègue, qui a des valeurs chrétiennes, qui est catholique, et qui est animateur de, comme j'expliquais, de jardins partagés, etc., qui est écologiste de la première heure, et très intéressé par tout ce qui est réseau un petit peu alternatif, et finalement redonner d'une certaine façon une âme à la cité. La cité des hommes bien industrielle et bien, voilà, bien urbaine. Et il disait, ce qui est important, c'est les liens plutôt que les biens. C'est-à-dire les liens, de cultiver des liens, mettre son énergie à établir et cultiver les liens entre des personnes, et que lui préférait focaliser son énergie là-dessus que d'accumuler des biens par une carrière et... voilà, donc c'est quelqu'un qui alors, l'a mis en pratique à son niveau, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas de télévision par militantisme, et il s'informe autrement. Lui et sa femme travaillent tous les deux à 4/5e, parce que c'est un choix, et elle a créé une école Montessori où j'ai l'impression qu'elle perd autant d'argent que ce qu'elle en gagne, si ce n'est plus. Mais c'est parce que voilà, les liens sont plus importants que les biens. Voilà. C'était ça l'idée.
Donc, c'était pour continuer ce que tu disais, Yvan. Hein, on est bien d'accord, c'est cela. Et l'idée de la tour de Babel, c'est, voilà, on va arriver à faire quelque chose. Bien sûr, ensemble peut-être, mais le premier but, c'est de faire quelque chose. Hein.
Tout à l'heure, tu as parlé du truc dans l'Église, de la babélisation de l'Église, en quelque sorte. On en parlait tout à l'heure aussi au petit-déj. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on aime bien, c'est que tous les frères et sœurs soient longueur, largeur, hauteur, tac, et on monte des murs comme ça à toute vitesse, alors que la Bible nous parle de pierre vivante.
Et je pense que Abraham était un caillou. Et Isaac, c'est pas le même caillou. Et tous les deux, ils ont dû passer par des trucs pour être formés. J'ai dans mon ordinateur quelque part la photo d'un mur maya que j'avais utilisé dans une présentation où il n'y a pas une seule pierre qui ait la même forme que sa voisine ou qu'une autre dans le mur. Chacune est ajustée au millimètre, hein, et ça fait un mur. D'abord, il est beau. Ensuite, il est solide puisqu'il date de je ne sais combien d'années. Et puis, on a quelque chose d'uni, en quelque sorte. Hein? Parce que le mortier en bitume, je ne pense pas que ça tienne tellement longtemps, surtout à la chaleur du Moyen-Orient, ça doit glisser un petit peu. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est, j'ai aussi la photo dans la même présentation d'un mur à Amman, en Jordanie, où il y a des grosses pierres, mais il y a aussi des petites pierres. Toutes petites qui sont entre les grosses. Et ce mur a aussi 2000 ans ou plus d'existence. C'est-à-dire que ce n'est pas la grosseur de la pierre qui importe, mais c'est la place où elle est, et justement le lien entre les pierres.
C'est aussi dans la diversité de cet écosystème aussi qu'on voit l'unité en Dieu et le fait qu'on n'a pas tous on se ressemble. En fait, on vient assembler en fait des choses très différentes. Ce que je trouve incroyable, c'est que on a tendance à s'émerveiller en fait de la biodiversité, en fait, de toute cette nature qui nous entoure et qui est tellement complexe et différente. Et quand il s'agit de l'homme, il faut que la femme et l'homme soient pareils, que tout soit pareil, que l'égalité en fait elle est dans ça soit bien carré, que tout le monde ait la même place, que la même taille, la même grosseur, ça n'existe pas ça, et je trouve assez flagrant le fait que ben en fait on s'émerveille d'un côté et qu'on s'insurge de l'autre. Et pourtant elle est merveilleuse cette diversité quand on se regarde les uns les autres, voilà.
Regarde, on est différents. Hein. Regardez comme on est différents, les vieux copains.
J'ai pas de chevaux. Deux cheveux.
Est-ce que vous connaissez ce livre de Claude Payan qui s'appelle, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, Il faut se débabyloniser.
Ah, très bien.
Et je vais vous lire simplement un passage dans son introduction où il dit « J'étais un babylonien pratiquant, je me suis repenti. « Église, arrête tes babyloneries. » Donc, moi, je n'ai pas de pourcentage dans la vente, mais vous pouvez toujours les commander au Point Bible, à la librairie à Béziers. Mon épouse se fera un plaisir de prendre vos commandes. Je ne prendrai pas de marge. Par contre, c'est un livre qui aborde vraiment sur le fond du sujet tout ce que nous venons d'écouter, d'entendre et de partager. C'est très, très beau.
Merci.
Est-ce que c'est un livre récent ?
Je ne crois pas. Ça fait déjà quelques années que je l'ai.
Tu peux me dire l'éditeur ?
L'éditeur, c'est Changement de mentalité dans l'Église en vue d'un réveil. Et l'éditeur, c'est... Ben, c'est un Toulonnais, je me rends compte, ce soit peut-être un voisin à vous là-bas. Claude Payan, il y a même son adresse, 32 rue Guynemer. Non, je ne vois pas l'éditeur.
Ah, peut-être lui-même alors. D'accord, je regarderai. Attends, faire de la publicité, on a une librairie chrétienne à Aix aussi, tu vois. Donc,
à Aix aussi, oui.
Vous pouvez nous répéter l'auteur.
Il s'appelle Claude Payan.
Oui, merci. Alors,
P-A-Y.
Payan avec Y-A-N.
On le trouve sur Amazon. Non, mais c'est la référence, la couverture, c'est ça que je veux dire. Pas pour acheter sur Amazon.
Ah, tu me rassures.
Oui, bonjour. Je voulais dire qu'en fait, ça dépend aussi du style d'église dans laquelle on est, le côté vachement confort, etc. Et ça dépend aussi de où viennent les gens. Donc, dans l'église que je fréquente, le danger, c'est que les gens veulent tellement aller voir le monde que du coup, ils y restent. Ils en partent. Enfin, ils partent de l'église pour aller dans le monde. Ça, c'est pour ceux qui sont nés dans les familles chrétiennes. Et en même temps, on a une autre population, c'est ceux qui ont découvert le christianisme et qui ont dû tout apprendre et qui apprennent. C'est-à-dire que, en fait, y en a qui découvrent que, par exemple, la sexualité en mariage, c'est pas une bonne chose, mais en fait, ils n'étaient pas au courant. Et puis, je sais pas comment dire, mais c'est... Il y en a, ils ont besoin de voir ce qu'apporte Jésus, en fait. Et s'ils vont trop voir ailleurs, ça, ils ne savent même pas que ce n'est pas bien, quoi. Enfin, je ne sais pas comment expliquer l'idée de la zone de confort. C'est qu'en fait, il faut qu'ils trouvent dans le christianisme le confort qu'ils n'ont pas eu à l'extérieur. Et pour plein de choses. Il y a une réflexion aussi qu'on se faisait avec Sébastien, parce qu'il n'y a pas que la sexualité, c'est le mensonge. C'est-à-dire que dans son milieu professionnel et dans le mien, il est évident qu'on ment. Tout le monde ment. Et quand tu mens pas, ça surprend les gens. C'est super bizarre, quoi. Sébastien me dit, les trois quarts des CV qu'il reçoit sont tous bidonnés, quoi. Les gens s'inventent des diplômes qu'ils n'ont pas. La base, c'est de vérifier les CV des gens. La base, c'est quand quelqu'un t'envoie un mail, c'est de vérifier que ce qu'il dit, c'est vrai. Et en fait, c'est le changement de paradigme. Je veux dire... Enfin, pour moi, c'est assez c'est compliqué le va-et-vient entre la semaine et le week-end, quoi. Suivant qui m'écrit un mail, est-ce qu'il a vraiment écrit ce qu'il a écrit ou est-ce qu'il a raconté n'importe quoi ? C'est pas vrai. Évident, en fait.
C'est vrai, mais avec ça, quand tu parles de vérifier, on peut vérifier pour que le dialogue soit vrai, mais on peut aussi vérifier pour être flic de l'autre.
Tout à fait, et ça, c'est très fréquent dans les services.
Il ne faut pas être flic de l'autre. Ce qu'il faut, c'est chercher à être en dialogue. Mais sur le dialogue avec celui qui est dans le camp des Romains, on ne peut jamais savoir, en fait, si c'est tout à fait vrai ou pas.
On ne peut jamais savoir, mais dans un truc financier, je veux dire, tu distribues des fonds, tu veux savoir comment ils ont été utilisés. Mais... Donc, c'est du flicage. C'est la base de l'existence du service. Même si Sébastien embauche un ingénieur et qu'il dit « j'ai le diplôme de la School of machin truc en Angleterre », il faut qu'il ait vraiment étudié la School of machin truc en Angleterre.
D'accord, mais là, on est dans des cas particuliers qui ne correspondent pas à la règle générale du regard des églises sur la société.
C'est des cas particuliers. Je ne comprends pas ta remarque.
Ben, cette situation de travail…
Ouais.
Même que la situation de voisinage, par exemple. Quand mon voisin me dit j'ai un bateau au port de Cary, je ne vais pas aller vérifier qu'il a un bateau au port de Cary. Si il me ment, il ment.
Il n'y a pas d'enjeu là.
Tu comprends, il n'y a pas d'enjeu.
Sauf si
t'invites. Il y a l'enjeu.
Oui, il n'y a pas d'enjeu si mon voisin a un bateau, mais en fait il n'a pas de bateau ou l'inverse. Effectivement, il n'y a pas d'enjeu.
Voilà, il y a l'enjeu d'un faux dialogue. Mais quelque part, c'est lui qui est dans son problème s'il est dans un faux dialogue.
Oui, mais alors pour moi, c'est le rapport en temps. C'est-à-dire que mon voisin, je le croise 5 minutes par jour. Donc en fait, s'il me raconte n'importe quoi, c'est pas bien grave. Par contre, mes collègues, je suis 7 heures par jour avec eux. Et l'enjeu, pour moi, il est dans le temps que je passe avec les gens. C'est-à-dire que mes voisins, je les vois peu. Les gens de l'église, je les vois. Enfin, avant. Et les collègues, je les vois le plus.
L'enjeu, c'est être soi-même vrai et faire la différence.
L'enjeu, il est sur soi, il n'est pas sur l'autre. Et quand, par exemple, dans les entreprises, il y a quand même des hiérarchies.
Ouais.
Et la responsabilité que les choses se fassent bien, elle est au N plus 1, au rang N plus 1, elle n'est pas au rang N.
C'est vrai.
Sébastien a le devoir d'aller vérifier que le diplôme de la personne qui l'embauche est bien valable.
Oui.
Je veux dire que dans l'entreprise, on est souvent en relation avec des gens du même rang. Et on n'a pas ces responsabilités-là. On peut savoir qu'ils mentent. On peut savoir qu'ils veulent même nous grimper dessus pour avoir le N plus 1 que nous, on aimerait avoir. Mais quelque part, comme dit Étienne, L'important, c'est qu'on soit à notre place. L'important, ce n'est pas de, toujours de débusquer le mensonge chez l'autre.
D'accord.
Sinon, à mon avis, on, je sais pas, on s'épuise, on se bat tout le temps. Non ?
Oui, non, tu as raison dans ce que tu dis. Après, c'est vrai que moi, je rencontre une difficulté dans la dans l'imbrication, quoi. Parce que moi, après, on me dit, mais tu n'as pas vu qu'il avait fait une erreur. Ou alors, Sébastien, s'il ne vérifie pas les diplômes et que le chef, il dit, on prend celui-là, et qu'après, lui, il doit bosser avec et il s'aperçoit qu'il ne sait rien faire. Le chef va dire à Sébastien, mais comment t'as... Enfin, en fait, on lui reproche à lui de ne pas savoir gérer le gars, tu vois.
C'est pour ça que le principe de responsabilité est essentiel, surtout dans
C'est essentiel, mais ce que je vois, moi, c'est que quand je pose cette question-là, genre, qui est responsable ? C'est toi, N+1, ou c'est moi ? C'est toi qui vérifie ou c'est moi ? Si c'est toi, moi, je ne vérifie pas.
C'est
ton rôle. Je te fais confiance. Après, c'est ta responsabilité. À la limite, tu ne vérifies pas, ce n'est pas mon problème. Mais je veux savoir où est placé le curseur de la responsabilité. Parce que pour moi, c'est super important. Est-ce que c'est à moi ou c'est à un autre de prendre le chapeau, quoi ? Chaque fois que je pose cette question, on me répond « tout le monde est responsable ». Je réponds « quand tout le monde est responsable, personne n'est responsable ». C'est un peu de tout, un peu de rien, tu vois.
C'est sûr.
Tu vois ce que, en fait, les gens, ils veulent surtout pas clarifier qui porte le chapeau pour petites choses ou grandes choses. Et moi, ça me dérange beaucoup quand je demande, mais au final, qui fait le truc, quoi ?
C'est vrai.
Ou alors, tu dis, Séverine, tu vas former la nouvelle collègue Caroline, ok. Mais dans ce cas-là, tu me le dis et c'est clair et c'est net, quoi. Enfin, tu fais pas un truc, ouais, tout le monde le fait un petit peu, et surtout, tout le monde fait pas grand chose non plus, quoi. Et après, tu viens pas me dire, bah, comment tu l'as pas fait.
C'est dans ce sens que, dans notre rapport avec Babel, que la question de l'autorité de Romain XIII et de la soumission à l'autorité est essentielle. Il y a une hiérarchie dans tout groupe, et quand d'ailleurs un groupe est anarchique, il ne tient pas longtemps. Hein, mais il y a toujours une hiérarchie dans un groupe, et le fait de servir l'autorité, le fait d'être à notre place et de respecter l'autorité, ça permet vraiment un rapport à Babel, à mon avis, qui est possible. Je ne dis pas qu'il soit forcément toujours agréable, mais qui est possible.
Mmh. C'est un apprentissage constant, on va dire.
Oui, oui. Par exemple, je ne dirais pas dans quel cadre, mais j'ai dit à mon N+1, dans un cadre particulier, je me soumettrai volontiers à cette mauvaise décision.
C'est magnifique.
Et après, c'est au N plus 1 de alors, pour que ce soit bien clair, parce qu'on connaît mon patron quand j'étais opticien, ce n'est pas lui. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le cadre de mon travail d'opticien que je dis ça. Hein, mais j'ai dit, dans un cadre hiérarchique donné, je me soumettrai volontiers à une mauvaise décision. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème que le groupe dans son ensemble se babélise, aille mal. Dès l'instant, moi, j'ai pris ma place de témoin de ce qui me paraissait être vrai et opportun. Ça aussi, c'est accepte, hein, c'est... de ne pas être dans Babel tout en étant, ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Hein, ça, c'est vraiment important d'être dans cet équilibre-là. C'est-à-dire, on pourrait geindre, se victimiser, être horrifié, d'être obligé de participer, je ne sais pas moi, à toutes les catastrophes écologiques, hein, de participer à toutes les corruptions, au fait que le budget de l'Élysée est de 100 millions d'euros par an, juste pour parce qu'un verre en cristal de baccarat coûte... combien, hein, voilà.
200 euros.
On pourrait
on a chez elle, c'est vrai. Je connais le prix.
On pourrait se frapper, se faire du mal en portant ça, mais je crois qu'on est dans le monde et pas du monde. Il faut avoir ce recul.
Quand Isa, parfois elle revient du boulot, on discute des différentes choses comme tu l'as fait, de voilà, il y a un tel qui a dit ça, et puis une telle avec qui ça ne fonctionne pas, et puis là, tout le monde s'acharne sur lui. Et puis, je crois que dans nos vies, il y a un nombre de raisons pour lesquelles, en fait, on pourrait être en colère, mais qui est absolument considérable, et qu'on pourrait souligner les injustices à tour de bras dans une journée, et on passerait notre temps à faire ça. Et on se dit une chose avec Isa, je dis, et là, comment est-ce que tu pourrais l'aimer, en fait ? Je me dis, en fait, Dieu n'a pas dispersé la tour de Babel en la montrant du doigt. En fait, il est descendu et il a dispersé, en fait. Et je trouve, comment est-ce que du coup, en fait, comment est-ce qu'on amène, en fait, à cheminer l'autre avec ce qu'on a reçu nous ? Comment est-ce qu'on l'aime ? Comment est-ce qu'on on perturbe aussi ce fonctionnement qui fait qu'en fait, eh ben, il y a des injustices aussi. Et je trouve que c'est aller à la, enfin moi j'aime beaucoup cette image, c'est aller à la rencontre de l'autre, c'est rejoindre aussi sa réalité, non pas l'accepter, mais en fait venir dans sa vie et l'aimer. Et voilà. Et quand tu soulignes ça, en fait, cette personne-là qui fait un faux CV, comment est-ce qu'on l'aime ? La personne qui en fait essaye de t'écraser parce qu'elle a les dents qui raillent par terre, comment est-ce qu'on l'aime ? En fait, je crois que l'objectif ultime, en fait, qu'on doit toujours avoir dans un coin de la tête et même au centre plutôt, c'est de se dire en fait, c'est quoi l'objectif ultime de nos vies, quoi ? C'est comment est-ce que dans une situation, au lieu de souligner les injustices, je rejoins la réalité de l'autre en l'aimant, même quand il m'est insupportable et surtout qu'il m'est insupportable. Et du coup, en fait. Ça, c'est un vrai challenge avec Dieu. Quoi.
Ça, c'est Éphésiens 4, verset 2. Hein, vous supportant l'un l'autre dans l'amour.
Vous supportez. Ça me parle beaucoup ce que tu dis, Yvan. Ça me parle beaucoup. C'était l'objet de ma réflexion récemment. C'est l'objectif de septembre.
Il y a un verset qui dit « Pourquoi ne supportez-vous pas les injustices ?» Et là, je le prends franchement pour moi, parce qu'il y a des fois, il y a des injustices qui me sont insupportables et qui me mettent en colère et qui sont pénibles. Quoi. Enfin, je veux dire, par exemple, les gilets jaunes ou autres, tout ce qui souligne le fait qu'ils mangent dans des verres à baccarat qui sont payés par le contribuable, c'est pénible. Enfin, ce n'est pas renier l'injustice. C'est dire, c'est pas la souligner en fait qui fera que en fait les choses elles vont évoluer. On ramène un petit peu de mal, me semble-t-il, un petit peu plus en soulignant systématiquement les injustices, plutôt que de se poser vraiment la vraie question de notre objectif premier, c'est celui de nous aimer les uns les autres. Et ça, je trouve que c'est beau, en tout cas quand on y arrive, quoi.
Et de faire ce qui est juste.
Ouais.
Et on n'imagine pas l'impact qu'on a même à notre insu en faisant ça. On avait la salle des fêtes à rendre à Saint-Julien et les deux employés municipaux étaient là et on disait ben oui, ce sera fait lundi, ce sera fait. Et puis l'autre insistait, il faut que ce soit fait lundi parce que maintenant. Et puis un autre employé municipal se tourne vers lui et dit mais s'ils te le disent qu'ils vont faire, ce sera fait. Waouh! C'était vraiment chouette de voir ça, quoi, de dire qu'on a quand même un impact, au moins d'apporter que c'est possible de faire autrement que ce qui se fait habituellement de mensonges, de tromperies.
Les amis, on va en rester là, il est 11h05. Ce soir, donc, Sébastien nous présente l'Épître de Jude, et peut-être pour ceux qui ne la connaîtraient pas par cœur, c'est-à-dire pas vous, hein, mais ça serait bien que qu'on la relise avant ce soir.
Elle n'est pas trop longue, mais
c'est court. Hein, c'est court d'ici ce soir pas, ou l'épître est courte?
Ah, oui. Mais c'est vrai que dans l'épître de Jude, le chapitre 7 est important.
Oui, hein. Oui, c'est pas.
Est-ce qu'on peut apprendre plusieurs traductions?
Bien sûr, bien sûr.
Attends, au niveau des traductions, ouais. Excuse, tu ne seras pas déçu. Hein.
Oui, oui. Il n'y a que celle de la photo.
Sébastien ne te décevra pas, mon ami.
Monsieur est prophète, je vois.
Très bien. Eh bien, bonne journée à chacun. Bon appétit. Merci encore, Yvan. Et à ce soir, 20h. Au revoir.